16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre. 2 heures pour vous raconter l'histoire sans se la raconter et découvrir chaque après-midi des personnages ou en couleur. À l'instar de mon complice Mathieu Noël. Bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Oui, avouons-le, ce n'est pas avec Historiquement vôtre que vous allez optimiser vos chances pour la grecque d'histoire, mais vous allez passer un bon moment, qui plus est enrichissant culturellement, à la rencontre de 3 personnages que les siècles séparent mais qui partagent un point commun.
Oui, aujourd'hui, c'est celui d'avoir vécu heureux mais surtout d'avoir beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup d'enfants. Je vous raconterai Marie-Thérèse d'Autriche, la souveraine la plus puissante de son temps, qui a fait preuve de beaucoup de diplomatie, à la fois pour son pays et avec ses 16 enfants. Oui, 16, oui, il me fallait bien les marier. Puis, dans un tout autre genre, une autre famille heureuse, famille nombreuse, celle de Joséphine Baker, qui a quant à elle fondé ce qu'elle appelait sa tribu arc-en-ciel en adoptant une douzaine d'enfants. Mais Mathieu, c'est indéniablement votre personnage qui a engendré le plus d'enfants.
Oui, plus d'une centaine. Et ce qui fait sa spécificité par rapport à vous, Stéphane, c'est que lui, il les a reconnus. Il s'appelle Ed Uben, il est le donneur de sperme le plus prolifique au monde, le geyser hollandais est son surnom. Autre spécificité qui, je suis sûr, vous plaira, il ne fait pas que des dons de gamètes par pipette interposée. Pour plus d'efficacité, il couche parfois directement avec la femme pendant que son mari patiente au salon. Donnez. Jusqu'où peut aller l'altruisme quand même.
Eux aussi, Mathieu, ce sont des grands altruistes, nos chroniqueurs.
Oui, Stéphane, des chroniqueurs ravis qu'on parle encore d'enfants aujourd'hui, après notre spécial hier sur les auteurs pour enfants. Quoique, l'autre jour, quand on a appris, souvenez-vous, le décès d'Anne Sylvestre, les réactions ont été contrastées. Il y a ceux qui étaient très émus et ceux qui, comme Pouls, l'étaient un peu moins.
Il y a Anne Sylvestre qui est morte.
Anne Sylvestre qui est morte là ?
Oui, là,
non. Oh non, ça c'est terrible, les gens qui doutent.
Qui est bien. Anne Sylvestre, tu sais qui c'était ?
Oui.
Olivier, vous apprenez au moins à faire semblant. En même temps, vous aimez plus les paupiettes de veau que les enfants. Vous êtes notre expert gastronomie. Chaque jour, l'histoire d'une recette, Olivier, aujourd'hui.
Et le plat préféré de mes enfants. Mais il n'est pas français.
Ah.
Ça va nous emmener voyager un petit peu. Je vais vous parler des sushis, de l'origine des sushis.
Moi, je sais, c'est japonais.
Mais comment vous allez parler des sushis, mais pour...
Mais toutes les gastronomies sont importantes, Stéphane,
oui,
il n'y a pas que la France.
Ils aiment que les trucs en sauce, et là c'est
mais il y a la sauce soja.
Oui, la sauce soja.
On commence à bien se connaître à l'approche de Noël.
Elle nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde, et des moins grands, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Et bonjour à tous, et oui, là je suis un petit peu déçue parce que je vous entends parler de familles nombreuses à 16 enfants, ou même à 500, c'est de la rigolade. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de Moulay Ismail qui a eu 1200 enfants, qui est dans le Guinness Book des records. Alors aujourd'hui, je vous parle aussi famille, mais en évoquant la première attraction mondiale l'année 1934, hein, avant la pyramide de Khéops et les chutes de Niagara. Eh bien, l'attraction mondiale number one, ce sont les sœurs Dionne. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que c'était des quintuplés, et c'était la première fois au monde que des quintuplés survivaient au-delà de quelques jours. Et puis, chose extraordinaire, c'était 5 filles. Or, la probabilité de donner naissance à 5 filles d'un coup est de 1 sur 57 millions. C'était donc un vrai miracle. Mais quand je vais vous raconter leur enfance, vous n'allez pas en croire vos oreilles.
David Castello-Lopez est avec nous également chaque jour, l'origine d'une invention. Et David, ça y est, maintenant que le confinement est levé, on peut à nouveau se déplacer et reprendre ce que Stéphane appelle le...
Chou, chou, chou.
Vous nous parlez non pas des origines
train
du train, non, mais de ce qui nous indique souvent qu'on va le rater.
Tout à fait, c'est le jingle de la SNCF. Vous savez qui fait...
Il sait le même fait, le jingle de la SNCF, mais vraiment, c'est incroyable.
Vous savez qui c'est qui l'a.
Enfin, Stéphane, vers 5h-10, il faudra que nos neurones soient dûment échauffés, puisqu'on jouera à ce jeu qui vous excite presque autant qu'une soirée action ou vérité chez les Habsbourg, Born to be Alive, le jeu qui vous permet de découvrir les secrets des grands de ce monde et de Clémentine, dont on a appris dernièrement qu'elle avait fricoté avec un personnage phare de Star Wars. Pas le plus bavard, mais un des plus robustes. Mais tout de suite, ouvrons notre grand livre du jour. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup, beaucoup d'enfants, comme Marie-Thérèse d'Autriche.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Elle a eu tellement d'enfants qu'elle avait parfois du mal à tenir le compte. Heureusement, Stéphane Bern a fait un grand tableau Excel pour qu'elle s'y retrouve. Vous nous racontez, Stéphane, le destin de Marie-Thérèse d'Autriche.
Oui, Mathieu, et quel destin de cette souveraine d'une étonnante modernité. Régnant sur le Saint-Empire romain germanique au XVIIIe siècle, Marie-Thérèse de Habsbourg jongle brillamment entre ses devoirs de chef d'État et ses 16 enfants. Nous sommes en 1757. L'impératrice Marie-Thérèse retient son souffle, priant de toute son âme pour la vie de son fils héritier Joseph. Le garçon de 16 ans est atteint de la terrible maladie de la variole. Marie-Thérèse refuse de quitter le chevet de son enfant et il faut toute l'autorité des médecins pour l'arracher à sa chambre. Décidément, cette année 1757 est accablante pour l'impératrice Marie-Thérèse. Son enfant est en danger et son empire, en pleine guerre, est menacé de tous côtés. N'importe qui, dans ces circonstances, s'effondrerait, mais pas Marie-Thérèse d'Autriche. À la fois mère d'une famille nombreuse et chef des armées, elle a appris à ne jamais lâcher, quoi qu'il lui en coûte. Mais revenons aux origines. Marie-Thérèse voit le jour en mai 1717. Sa naissance, hélas, déçoit profondément ses parents. En effet, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles VI, et son épouse, l'impératrice Élisabeth Christine, attendent un héritier mâle depuis des années. « Mon épouse n'est pas satisfaite de n'avoir eu cette fois qu'une fille, mais moi, je dis que c'est toujours un enfant, et j'espère que des fils et des filles suivront », écrit dans une lettre le père de Marie-Thérèse. Après Marie-Thérèse, le couple impérial a deux autres filles. Pourtant, Charles VI ne cesse jamais d'espérer la naissance d'un fils. Sans doute est-ce pour cela qu'il n'initie pas son aînée, Marie-Thérèse, à l'art de gouverner son vaste empire, qui comprend l'archiduché d'Autriche, les royaumes de Bohême et de Hongrie, ainsi que d'autres territoires allant jusqu'en Italie et aux Pays-Bas. Au lieu de recevoir une éducation de future impératrice, Marie-Thérèse apprend la religion, les langues, la musique ou le théâtre. À 19 ans, très mince, blonde, avec de grands yeux bleus, Marie-Thérèse épouse le séduisant François-Étienne, duc de Lorraine, auquel elle est promise depuis l'enfance. Le mariage est arrangé, mais ça tombe bien, les deux fiancés sont très épris l'un de l'autre. Leur nuit de noces est un succès et inaugure un bonheur conjugal qui durera toute leur vie. D'ailleurs, à la différence des princes de leur temps, les époux impériaux partagent le même lit. Marie-Thérèse est une épouse ardente qui fait bannir de la cour un courtisan coupable d'avoir conseillé à l'empereur de faire chambre à part. En octobre 1740, l'empereur Charles VI meurt brutalement, victime d'un empoisonnement aux champignons.
Volontaire ou...
Non.
Il s'était trompé dans la cuillette.
Oui, exactement. Marie-Thérèse, son héritière, est propulsée sur le devant de la scène. Désormais à la tête du Saint-Empire romain germanique, elle devient à 23 ans l'une des femmes les plus puissantes d'Europe. Mais à peine les funérailles sont-elles achevées que les alliés de son père se retournent contre elle. Le roi de Prusse, Frédéric II, qui s'était pourtant engagé à soutenir l'impératrice, raille son inexpérience et sa jeunesse. Pensant pouvoir dépouiller facilement Marie-Thérèse, il envahit la région de la Silésie qui appartient au Saint-Empire romain germanique. Au lieu de s'écraser, d'accepter les conditions de l'envahisseur, la jeune impératrice fait dire qu'elle aimerait mieux périr que de traiter avec lui. C'est le début de la guerre de succession d'Autriche qui dure jusqu'en 1748. Marie-Thérèse vainc les ennemis qui convoitent son trône, mais les caisses de l'État sont vides et l'armée totalement désorganisée. Comprenant qu'elle doit remettre l'Empire sur pied, l'impératrice Marie-Thérèse se lance dans une immense réforme administrative, économique et militaire. Pour y arriver, elle se met au travail dès 4 heures du matin pour lire des rapports, entretenir sa correspondance ou recevoir les ministres. Malgré ce métier très prenant de souveraine, Marie-Thérèse ménage sa vie privée. Avec son époux François-Étienne, ils auront donc 16 enfants. Mais 6 d'entre eux ne survivront pas. 3 meurent en bas âge et les 3 autres presque à l'âge adulte. Mais c'est bien simple, l'impératrice est presque toujours enceinte entre 2 conseils des ministres. Sans répit, elle passe du berceau de ses enfants aux cartes militaires commentées par ses généraux, ébahis devant tant d'énergie. Au sein du couple impérial, François-Étienne est un père chaleureux qui ne craint pas d'exprimer sa tendresse, tandis que Marie-Thérèse incarne l'autorité et la sévérité. C'est elle qui veille à l'éducation des enfants, surtout de ses fils, destinés à régner. Joseph, Charles-Joseph, Léopold, Ferdinand et Maximilien doivent savoir lire et écrire en allemand, français et latin, maîtriser les mathématiques, connaître l'histoire, la géographie et le droit. Pour les filles, le programme est moins chargé, puisqu'adultes, elles devront avant tout être de charmantes épouses. Leur éducation intellectuelle est telle que Marie-Thérèse s'aperçoit que sa petite dernière, Marie-Antoinette, ne sait pas lire et écrire correctement à l'âge de 10 ans. Marie-Thérèse et François-Étienne passent autant de temps qu'ils le peuvent avec leurs enfants qui les accompagnent en pèlerinage, à la messe, mais aussi à des spectacles. L'un des grands plaisirs de la famille est de s'installer ensemble au palais de Schönbrunn durant l'été. Marie-Thérèse a sa place dans les jardins pour travailler, entourée de sa petite tribu. Hélas, en 1765, ce bonheur familial prend soudain fin. Un drame si terrible s'abat sur Marie-Thérèse qu'elle songe même à abdiquer.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Ils vécurent heureux, quoique pas toujours si heureux que ça, mais en tout cas, ils eurent beaucoup d'enfants. Vous nous parlez, Stéphane, de l'impératrice Marie-Thérèse. Au XVIIIe siècle, elle a régné sur le Saint-Empire romain germanique, tout en veillant sur l'éducation de ses nombreux, ses très nombreux enfants. Mais un drame, vous nous le disiez, va bouleverser l'équilibre de la famille.
Oui, exactement, Mathieu. Le 18 août 1765, François-Étienne de Lorraine, l'époux de l'impératrice Marie-Thérèse, s'effondre et expire en quelques minutes seulement. Il a 57 ans et pour Marie-Thérèse, cette perte est tragique. Désespérée, elle se confie à sa neuvième fille, l'archiduchesse Marie-Joseph, avec ces mots d'une profonde tristesse. « Tu perds un père incomparable et moi un époux, un ami, le seul objet de mon amour. Toute mon infortune depuis 25 ans ne me paraissait supportable que parce que je l'avais pour soutien. » Marie-Thérèse coupe ses cheveux et revêt des habits noirs de deuil. Elle ne se remet tellement pas de la perte de son mari qu'elle songe un instant à abdiquer, avant de se ressaisir pour partager le pouvoir avec l'un de ses fils, Joseph. Ses autres fils règnent sur le duché de Modène ou encore le grand-duché de Toscane. Quant aux filles, Marie-Thérèse les marie selon des stratégies d'alliance politique et les malheureuses n'ont pas leur mot à dire. La plus à plaindre est certainement la dernière fille de Marie-Thérèse, une certaine Marie-Antoinette. Oui, celle-là même qui deviendra reine de France en 1775. Inutile de préciser que cela se termine très mal pour Marie-Antoinette puisqu'elle est décapitée avec son époux Louis XVI pendant la Révolution française. Ça ne vous aura pas échappé, Mathieu. Mais Marie-Thérèse ne sera plus là pour lui venir en aide. Accablée par la perte de son époux, l'impératrice ne quitte plus le deuil. Durant les dernières années de son règne, prenant de plus en plus de poids, elle est très diminuée physiquement. Depuis longtemps, Marie-Thérèse mange trop malgré les remontrances de son médecin qui a recours à d'ingénieux stratagèmes. Pendant les repas, au fur et à mesure qu'elle ingère les aliments, il prend les mêmes en quantités identiques et les mélange dans un seau d'or pour que Sa Majesté comprenne ce qui se passe dans son estomac.
C'est un beau gâchis quand même, Stéphane, pour l'illustration, on la comprend.
C'est horrible,
mais
vous imaginez.
Le gâchis est terrible.
Dépressive, Marie-Thérèse, qui a toujours été une fervente catholique, s'enferme dans la religion. Le 29 novembre 1780, elle succombe des suites d'un refroidissement. On l'enterre auprès de son époux bien-aimé, dans la crypte des Capucins, nécropole viennoise de la famille impériale des Habsbourg. Son vieil ennemi, le roi de Prusse, Frédéric II, lui rend ce dernier hommage avec ses mots crus. Elle a fait honneur au trône et à son sexe.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Marie-Thérèse d'Autriche, nous avons l'immense plaisir d'être avec une grande dame qui lui consacre un livre entier pour la deuxième fois, la philosophe Elisabeth Badinter. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Bonjour Elisabeth Badinter. C'est plus qu'un plaisir, c'est un honneur de vous entendre aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre consacré à Marie-Thérèse d'Autriche, Les conflits d'une mère, publié chez Flammarion. Une mère, et quelle mère ! 16 enfants, 19 ans, bien que 3 n'aient pas survécu dans leurs jeunes années. D'ailleurs, Marie-Thérèse est dévastée à la mort de son époux, François-Étienne, mais la mort d'un enfant n'est pas du tout vécue de la même façon à l'époque. Ça, au fond, ça faisait partie de la vie, on s'y attendait, vu la mortalité infantile.
Absolument, on s'y attendait, mais surtout, on ne manifestait au fond aucun vrai chagrin. Et les mères, je dirais, du statut de Marie-Thérèse, n'allaient pas auprès de l'enfant, ne s'en occupaient pas, et même partaient comme ça à la chasse pendant que le petit mourait. C'est absolument inimaginable pour Marie-Thérèse. Et je me souviens toujours du propos de Montaigne, qui n'avait pas changé dès son époque, à savoir... « Oh, j'ai dû perdre 2 ou 3 enfants en nourrice, non sans regret, mais sans chagrin. »
Ça paraît. Comment vous l'expliquez, Elisabeth Badinter, avec le recul de l'histoire, même pour les papas aujourd'hui, hein, on a du mal à imaginer cette époque où les parents étaient finalement distants comme ça de leurs enfants, on les confiait déjà à des nourrices. C'était culturel, c'était mal vu, parce que les sentiments humains n'ont pas pu changer. Je pense que certains devaient cacher leurs sentiments pour leurs enfants.
Oh, je ne crois pas vraiment. Peut-être certaines. Mais enfin, je pense que c'est en partie à cause de la mortalité infantile. On se disait qu'il ne faut pas s'attacher à des petits-enfants parce qu'ils ont une chance de mourir. Mais je dirais que les sentiments peuvent effectivement changer.
C'est fou.
Et quand on regarde l'histoire de la maternité, ça a changé considérablement, effectivement, à partir du 18e et même à partir du 20e.
Marie-Thérèse est vraiment particulière. D'abord, elle aime son mari. Vous l'avez si bien raconté dans un précédent ouvrage. Et là, vous parlez de ses enfants. Vous rappelez dans votre livre qu'elle assume avoir des enfants préférés. Et notamment Marie-Christine, la 5e, était sa favorite. Alors d'abord, est-ce que on peut assumer à l'époque d'avoir des enfants préférés? Et pourquoi elle? Pourquoi Marie-Christine?
Alors d'abord, oui, on pouvait effectivement montrer une préférence et qui est considérée aujourd'hui comme une terrible injustice pour les autres. Pourquoi Marie-Christine? Eh bien parce que c'était probablement la plus charmante, la plus fine, la plus intelligente et que elle avait un art de la manipulation. Sa belle-sœur lui avait appris comment, entre guillemets, manipuler sa mère. Et donc, Marie-Thérèse disait toujours « Je veux que mes enfants me montrent qu'ils m'aiment ». Et c'est elle, Marie-Christine, qui l'a le mieux montré.
Comment on explique, Elisabeth Badinter, que Marie-Thérèse ait eu autant d'enfants? Alors évidemment, la contraception n'existait pas.
Ils dormaient dans le même lit.
Donc, je pense toujours à cette phrase de Marie Leszczynska qui disait toujours grosse, toujours. et c'était terrible pour les femmes, c'est-à-dire de passer son temps enceinte. Mais elle était très amoureuse de son mari. Elle prenait ça comme une preuve d'amour supplémentaire.
Non, je crois que quand elle était enceinte du 10e, elle a confié à Amélie de Saxe, qui était elle-même enceinte, qu'elle donnerait tout au monde pour que ça s'arrête. Elle détestait être enceinte et surtout d'accoucher. Elle avait terriblement peur de mourir durant l'accouchement et juste après l'accouchement, que vraiment ça n'était pas une partie de plaisir pour elle. Ou plutôt, c'était les conséquences du plaisir conjugal. Mais elle-même se serait volontiers arrêtée à 10 et peut-être même à moins.
On la comprend. On continue à parler des couples qui vécurent heureux et qui eurent beaucoup, mais alors beaucoup d'enfants, et de Marie-Thérèse d'Autriche et de François-Étienne de Lorraine en particulier, avec notre illustre invitée, Elisabeth Badinter, sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, comme Marie-Thérèse d'Autriche, dont on parle avec notre invitée exceptionnelle aujourd'hui, la philosophe et féministe engagée Elisabeth Badinter, qui publie « Les conflits d'une mère, Marie-Thérèse d'Autriche et ses enfants ». Elisabeth Badinter, vous êtes féministe, Marie-Thérèse, elle ne l'était pas.
Ah mais pas du tout. Elle était même le contraire d'une féministe, ce qui est, je dirais, stupéfiant quand on est justement la femme la plus puissante d'Europe à l'époque, parce que Catherine II n'était pas encore au pouvoir. Mais elle voulait élever ses filles pour être de bonnes épouses, qui s'occupent de leur mari, qui ne s'occupent surtout
mais
pas de politique, et qui était là pour charmer les maris et s'en occuper comme presque une mère, mais soumise. Donc, elle avait plutôt appris la soumission à ses filles que l'autorité et les libertés. Mais, revanche du destin, les trois filles mariées à trois souverains ont toutes fait de la politique, en dépit des avertissements répétés de leur mère.
Vous aviez publié, il y a 4 ans, un livre sur l'impératrice Marie-Thérèse, Le pouvoir au féminin. Et c'est vrai que son pouvoir est immense. Vous le rappeliez à l'instant. On peut dire que c'est la souveraine la plus puissante d'Europe au milieu du XVIIIe siècle. Mais en réalité, elle va de déception en désillusion avec toutes ces guerres qu'elle perd les unes après les autres. L'Allemagne de Frédéric II qui lui grignote son empire.
Bah oui, mais elle s'est un petit peu vengée quand même par la deuxième guerre, qui est la guerre de 7 ans. Bon, elle a jamais récupéré en fait sa Silésie chérie, qui était le grenier de l'Empire,
oui,
que lui avait volé Frédéric II. Mais il faut aussi savoir que son père, son grand-père ne travaillait pas. Et comme il ne travaillait pas du tout, peut-être 2 heures par jour, et elle a eu un travail considérable pour, comme vous l'avez dit, remettre l'armée armée sur pièces, réformer la justice et l'administration. Donc, elle ne pouvait pas forcément avoir tous les avantages guerriers à l'égard de Frédéric, qui lui ne fait que ça.
Ce qui est fascinant dans ce que vous racontez dans vos livres, Elisabeth Badinter, c'est qu'elle a réussi au fond, c'est peut-être la première, à mener de front celle de chef d'État, de chef de guerre aussi, parce qu'elle menait de femme politique, et sa vie de mère et d'épouse. Elle est à la fois très féminine, et les Espagnols utilisent l'expression varonile. Nous, on dit une femme virile, ça paraît bizarre, mais c'est un peu ça. Elle a les qualités des hommes et des femmes en même temps.
Oui, mais comme les femmes actuelles, je dirais comme les femmes contemporaines. Il faut savoir que la virilité et la féminité, ça appartient aux deux sexes, mais qu'on a fait pendant des siècles et des siècles, on a fait en sorte qu'on ne soit que l'un ou l'autre selon son sexe. Et là, elle a pu exprimer, sa virilité, son sens du combat, de l'autorité, etc. Donc, je pourrais dire que en cela, mais pas en cela seulement, elle est vraiment proche des femmes d'aujourd'hui, qui peuvent avoir des responsabilités très importantes, et conjuguer ça, non pas avec 16 enfants, mais avec un ou deux ou trois.
Alors, Elisabeth Badinter, c'est une femme, Marie-Thérèse d'Autriche, qui est moderne, on l'a dit, mais qui n'est pas parfaite. D'ailleurs, elle a jamais cessé de s'interroger. Suis-je une bonne mère? C'est très novateur de se poser cette question-là à l'époque.
Ah oui, alors, c'est très très novateur. Je n'ai jamais trouvé tel propos ailleurs, dans d'autres bouches de souveraines ou d'aristocrates. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et qui la rapproche, en dépit de tout, de nous aujourd'hui. Et je pense que la plupart des mères se demandent secrètement, ai-je été une bonne mère? Qu'est-ce que j'ai fait de mal au moindre problème de l'enfant? Et ben, c'était le cas de Marie-Thérèse, ce qui étonnait, mais incroyablement, son entourage, qu'elle puisse se poser cette question.
Mais en même temps, elle écrivait tout le temps à toutes ses filles en leur donnant des consignes. Enfin, on a lu, grâce à Merci d'Argenteau, les lettres que Marie-Thérèse écrivait à Marie-Antoinette. Ne faites pas ci, faites cela.
Elle était très directive.
Elle était très directive, au fond.
C'est rien de le dire. Elle était très directive et autoritaire. Oui. Et il y a ce mot terrible de Marie-Antoinette à propos de sa mère qui dit que le principal sentiment qu'elle a éprouvé pour sa mère, c'est la crainte. C'est quand même.
Par chance, nous avons changé nos rapports avec nos mères. Et il n'y a pas que la crainte qui nous anime. En tout cas, pour tout connaître de ce personnage incroyable, je vous invite à lire vraiment votre livre, Les conflits d'une mère, Marie-Thérèse d'Autriche et ses enfants, qui viennent paraître chez Flammarion. Et puis, j'invite aussi, ça c'est très personnel, à lire tout ce que vous dites, Elisabeth Badinter, sur le féminisme d'une manière générale, parce qu'il y a peu de femmes qui, comme vous, dites les choses avec autant de justesse et de vérité. Merci beaucoup. Et merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h sur Europe 1, on vous raconte l'histoire sans se la raconter. Oui, même Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez une histoire avec beaucoup d'enfants aussi.
Et d'un coup.
Ouais. Oui. Cinq filles d'un coup des quintuplés. Elles naissent le 28 mai 1934 en Ontario, au Canada, dans une modeste famille de fermiers. Alors, première formalité, bien sûr, faut trouver quand même cinq prénoms d'un coup.
Bon. Ah oui, c'est vrai. Oui.
Cinq filles, Annette, Cécile, Émilie, Marie et Yvonne. Mais enfin, ça va, ça c'est facile, mais la vraie question, c'est plutôt de savoir comment leurs parents vont faire face, parce qu'ils ont déjà cinq enfants. Donc, le temps d'un accouchement, la famille Dionne vient de passer de 7 à 12 personnes quand même. Et les parents sont de modestes fermiers. Alors, comme la naissance de ces quintuplés fait la une des journaux, deux jours après leur naissance, il y a des représentants d'une foire internationale qui viennent voir les parents, leur disant, écoutez, on vous donne un petit billet et puis quand vos filles seront un petit peu plus solides, on va les exposer dans tout le pays, on les emmène en tournée et on les exposera dans des couveuses. Et oui, ça se faisait.
Il n'y avait pas le Paris Match de l'époque qui a proposé un reportage.
Bien sûr que si. C'est vraiment. Enfin, en tout cas, le père signe. On se pince pour y croire. Il signe un contrat pour que ses filles partent en tournée des nourrissons pour être exposées dans des couveuses dans tout le pays. Bon, le lendemain.
Ça n'a pas l'air de choquer Stéphane.
Non, Stéphane trouve ça normal. Win-win. Non, mais Stéphane, vous pourriez exposer vos chiens. Mais enfin, est-ce qu'on expose Exposer
il y a des expositions,
ça se faisait en tout cas, mais pas de bébé tellement. Non, alors en tout cas, dès le lendemain,
mais
le
il
père.
Il a besoin d'argent même
ben,
temps.
Oui. Ah non, mais il est d'un cynisme.
Je le découvre jour après jour.
Oh là
là, c'est vraiment étonnant.
Ça va jaser dans les chaumières.
Je me pousse dans vos retranchements.
Ah, mais Stéphane Bern n'est pas celui que vous croyez. Il sort de ce corps, Belzébuth. Alors bref, donc, comme il a quand même signé un contrat, il a beau se rétracter. L'affaire fait grand bruit parce que la tractation devient publique. Et du coup, ça remonte jusqu'au premier ministre de l'Ontario et il retire aux parents Dion la garde de leur fille.
Ah donc.
Et oui,
mais oui, alors, au début, forcément, si vous, si vous bradez vos enfants et que vous les laissez partir en tournée avec des forains, eh bien, je pense qu'on va vous retirer la garde, hein, très clairement.
Alors au départ, il retire la garde que pour une durée limitée de 2 ans et on confie au médecin, le docteur Dafoe, qui avait donné naissance à ses enfants, et le tutorat en fait des 5 filles avec 3 autres personnes. Mais chose abominable, alors que l'on vient de séparer ces enfants de leurs parents pour les empêcher de tirer un parti financier de leur naissance, et ben c'est le gouvernement de l'Ontario qui va les exploiter avec un cynisme incroyable, conditions scandaleuses. Alors d'abord, les 5 filles sont déclarées pupilles de la couronne de la province jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est bien parce que ça va permettre de gagner pas mal d'argent sur leur dos. On construit spécialement pour elles, en face de leur lieu de naissance, une sorte d'hôpital, musée, nurserie, salle d'exposition, hôpital et nurserie Dafoe, du nom de leur tuteur et médecin. Et on y aménage, accrochez-vous au bastingage, une galerie d'observation. Donc elles vivent là, derrière des vitres, des milliers de visiteurs paient pour pouvoir les observer.
C'est Love Story, en fait.
Love Story, si on veut. Elles sont devenues une véritable attraction et on vient du monde entier pour les voir. Vous connaissez Disneyland, hein? Bon, bah là, c'est Kintland. Ça s'appelle Kintland, les quintuplés Kintland. Pensez au film Le Truman Show avec Jim Carrey. Personnage unique d'un gigantesque plateau de télé.
Elles sont jeunes, elles ne savent pas, elles comprennent
pas. Là, c'est des bébés. C'est un peu la même chose, mais la première fois qu'elles voient leur frère et sœur, c'est à travers une vitre. Et cette maison dispose d'une sorte d'air de jeu.
Attendez, pourquoi elles sont dans une couveuse, en fait?
Alors, parce qu'elles sont bébés, mais après, quand elles ont un an, 2 ans...
Elles sont toutes en parfaite santé.
Oui, elles sont en parfaite, mais c'est pas du tout pour ça. On les met dans une maison. Là, il y a une aire de jeu avec un petit bac à sable et un petit toboggan. Et les gens viennent par milliers derrière des vitres pour les regarder jouer. Ils s'agglutinent à la vitre et c'est un zoo humain.
Elles ne reçoivent pas d'éducation?
Elles ont pas le droit. Écoutez, enfance jusqu'à l'âge de 9 ans, elles vivent là-dedans, elles n'ont pas le droit de sortir. Pas d'amis, pas de fête familiale, pas le droit d'aller à l'école.
Câlin, rien.
Aucun contact ou presque avec des parents. Elles sont élevées par des infirmières. Elles n'ont aucune idée de ce que c'est que le monde extérieur. Et je vous dis, la première fois qu'elles voient leurs frères et sœurs, les 5 premiers, c'est à travers une vitre. On est dans les années 30. Elles naissent en 34. On est dans les années 30, on est avant-guerre.
Quel siècle?
1934. On va les utiliser naturellement pour des pubs. Des centaines de marques vont exploiter leur image. Elles vont être même les vedettes de 4 films hollywoodiens, dont un de 1938, Quintuplante, voilà le titre du truc. Alors, pendant ce temps-là, bien sûr, leurs parents s'agitent pour récupérer la garde de leur fille. Ils finissent par y arriver au terme d'une longue bataille judiciaire. Et les quintuplés les rejoignent dans une grande maison de 20 pièces, payée par leur argent, ce dont elles ont, évidemment, à l'époque, elles ont 9 ans, elles n'en ont aucune idée. Leurs parents continuent à les habiller toutes les 5 pareilles, à les faire voyager partout pour des exhibitions, à vendre leurs images pour des pubs. C'est elles qui font vivre toute la famille, naturellement. Et quand on voit des images d'elles, les sœurs Dionne, mais c'est d'une tristesse insigne. Elles ont l'air malheureuses, ces pauvres gosses. Elles ont été totalement privées d'une véritable affection parentale. Et elles ont l'air tellement tristes que, et pour cause, une fois devenues adultes, elles ont révélé dans un livre de souvenirs en 95, ça c'est quand même assez récent, ça n'a pas 30 ans, que leur père abusait d'elles quand elles étaient adolescentes.
Non.
Alors en 1998, le gouvernement ontarien leur a accordé, le gouvernement ontarien leur a accordé une compensation financière de 4 millions de dollars canadiens en dédommagement des années d'exploitation de Kintland. Mais enfin, c'était quand même une piètre consolation dans l'histoire hors du commun.
Ça aurait pu être 5
millions. De ces 5 petites filles, non, parce que dès leur naissance, l'argent a fait tout leur malheur.
Mais elles ont quand même eu une vie heureuse après
leur problème.
Ou pas du tout, jamais?
Elles étaient quand même légèrement traumatisées, parce qu'elles ont raconté que chez elles, on les considérait comme c'était Cendrillon, quoi. Ouais. Elles étaient les étrangères, les étrangères qui faisaient à la fois vivre la famille, mais du coup, que leurs frères et sœurs n'aimaient pas. Ah non, c'est sœur Dionne, vous vous rendez compte? Donc, il y avait plus de visites chez les sœurs Dionne dans les années 30 que les chutes du Niagara.
En tout cas, merci beaucoup, Clémentine.
Clémentine, vous restez avec nous pour le quiz, cette séquence où, que jadis, vous dominiez et où désormais Stéphane brille quotidiennement.
Oh, quitte, dis donc, faut pas non plus exagérer.
Peut-être à pêcher par excès de confiance. Ce matin, il vous a fait livrer un exemplaire de l'histoire pour les nuls avec cette dédicace un peu sournoise.
Je deviens allergique aux nuls.
Franchement, Stéphane.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
C'est un fait statistique, on l'a souvent constaté dans Question pour un champion. Vient un jour où, après avoir enchaîné les victoires, le candidat qui dominait s'effondre soudain comme un château de cartes et commence à remettre en cause les auteurs mêmes des questions.
Bande de nuls !
Après avoir tutoyé les sommets, Clémentine Portier-Kaltenbach repartira-t-elle de ce studio avec des encyclopédies toutes pourries sous les bras ? Découvrons-le en jouant à Burn to be Alive, notre grand quiz qui commence toujours par une question pour vous, Stéphane.
Oui, c'est
ainsi,
bizarre.
C'est comme ça que vous qui avez demandé ça, probablement.
Non.
Il n'y a pas qu'en Égypte que des fouilles ont permis de retrouver des statues de sphinx. En 2014, on en a retrouvé un haut de plus de 4 mètres. Il était en Californie. Vrai ou faux ?
C'est drôle, ça me dit quelque chose.
Ça pourrait être un décor de péplum, non ? Quelque chose comme ça ?
J'ai vu qu'il y avait une histoire de sphinx ailleurs, mais est-ce que c'est en Californie ? Est-ce que c'est peut-être un piège ? C'est-à-dire, oui, on a trouvé un sphinx et on va découvrir que c'est...
Est-ce que ça serait un sphinx qui serait le souvenir d'une civilisation d'Amérique latine qui aurait essaimé jusque vers la Californie ? Ou est-ce que c'est les restes d'un plateau de tournage de Cécile B. DeMille qui a fait...
Beaucoup de raisonnements pour une réponse simple, vrai ou faux ? A-t-on retrouvé un sphinx ? En Californie, oui ou non ?
Non. Allez, non.
Dites
non.
Vous avez perdu.
Vous apprendrez, Stéphane, à écouter les raisonnements de Clémentine qui sont souvent fort pertinents. Puisque oui, on a retrouvé un sphinx en Californie. Il avait été utilisé pour le film de Cécile B. DeMille, sorti en 1923, Les Dix Commandements. Ah, il était resté 90 ans sous le sable. C'est un des 21 sphinx qui a été utilisé pour le décor de ce film.
Pour avoir un petit bonus, là, je trouve.
Moi,
hein.
Je dis...
Ah ouais.
Je dis.
Okay. Ça serait fair play.
Je donne un demi-point bonus à Clémentine Portier-Kaltenbach.
Vous
avez raison. Ça marche pas très bien, ça. On va vraiment les compter aujourd'hui. Je compte sur vous.
Bien sûr.
Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Le célèbre logo Peace des hippies de la génération Woodstock, utilisé dans les années 60, a également été celui du service de police de New York dans les années 30. Vrai ou faux ?
Ça me dit quelque chose, oui. Je dirais oui.
Vous avez perdu.
Oh. Au moins, on n'a pas perdu de temps sur cette question.
C'est bien, oui.
Voilà. Vous êtes allé dans le panneau, droit dedans. Mais non, ce sigle, le logo Peace des hippies de la génération Woodstock, il n'a pas été utilisé par la police de New York dans les années 30. Il l'a été par la 3e Panzer Division Blended de la Wehrmacht.
J'allais dire, c'est des Mercedes, je me suis trompé.
Durant la Deuxième Guerre mondiale, les pacifistes ne le savaient pas quand ils ont choisi ce logo.
Oui,
évidemment, ça les aurait peut-être refroidis. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Qui a dit « Nous croyons conduire le destin, mais c'est toujours lui qui nous mène » Diderot ou Christophe Maé ?
Je veux croire que c'est Diderot.
Si c'est Christophe Maé, on écoutera un extrait. Donc à titre personnel, j'espère que ce n'est pas lui.
Vous avez gagné !
On a eu chaud, c'est bien Diderot, Stéphane, bravo, issu de l'ouvrage « Jacques le fataliste et son maître » sorti en 1796. Quant à Christophe Maé, il a dit « Il y a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond, des gens qui dorment et j'en dorme son ». C'est pas mal aussi.
C'est pas mal,
question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Question russe. Qu'est-ce qui coûte le plus cher ? Un coussin 100% polyester à l'effigie de Poutine chevauchant un ours ou un billet pour visiter le musée de l'érotisme à Saint-Pétersbourg. Vous avez probablement les deux, le coussin, et vous avez dû visiter le musée. Souvenez-vous.
Non, j'ai pas visité le musée, mais je vous en ai parlé parce que je vous ai dit que c'est là qu'était exposé le sexe de Rasputin. Mais en revanche, j'ai pas. Qu'est-ce qui coûte le plus cher, le coussin ou l'entrée au musée ?
Oui, une bonne idée cadeau pour Noël.
L'entrée au musée se fait. On peut pas le visiter facilement.
J'imagine que c'est comme c'est un musée assez olé olé, ça doit coûter plus cher que le coussin de Poutine chevauchant un ours. Je dirais l'entrée au musée coûte plus cher que le coussin.
Vous avez Verdu.
Festival de la loose aujourd'hui, avec des questions, c'est vrai, éminemment historiques.
Bien sûr.
C'est le coussin de Poutine chevauchant un ours qui coûte plus cher, 1500 roubles, un cadeau de Noël idéal pour toute la famille, alors que l'entrée au musée de l'Héroïsme n'est que de 100 roubles, alors que vous pouvez y voir quand même le sexe de Rasputin conservé dans de l'alcool, vous nous l'avez dit, vous nous avez donné même la dimension. 28 cm 5.
Je n'avais pas donné la dimension.
Ah ben moi,
voilà.
je donne la dimension précise.
28
cm 20,5 cm.
Oui, mais Stéphane, je vous avais dit que pour moi, c'était un sexe de cheval. Je pense que c'est vraiment c'est un truc assez impressionnant.
Mais... Oui, Stéphane, c'est impressionnant.
Énorme, mais vous savez-vous que Rasputin était un clistie, hein, on en a suffisamment parlé, hein, qui pratiquait la fornication sainte.
Oui.
Fallait quand même avoir la
donc
santé.
Donc j'ai gagné, c'est ça
Oui, oh, bah, ça va, dites pas ça sur ce petit ton goguenard. Hein,
alors très beau quiz aujourd'hui que Stéphane devrait remporter d'un demi-point, mais je décide que ça n'a pas de sens. J'offre un demi-point supplémentaire ici à bas droite, et donc nous faisons la question 5. Nous sommes à égalité. Question numéro 5.
Je mérite un petit point, un petit demi-point pour mon sphinx.
Vous aimez les pommes des rois, des reines, de l'arbitraire, comme ça vient moi, et vous n'avez qu'à imaginer que c'est le roi du quiz.
Mais non, j'ai jamais aimé cette période.
Nous sommes dans l'absolutisme, et je décide. Question numéro 5, pour vous deux, c'est la question de rapidité. Vous attendez que j'ai terminé toutes les propositions pour me donner la bonne réponse. Le premier à donner la bonne réponse a gagné. Qui est Vincent Crochon ? Trois propositions. L'homme qui a inventé le métier à tisser à la chaîne, l'homme qui a inventé le spéculum moderne, ou le vrai nom de Vincent Cassel ?
Moi, je dirais deux.
Bonne réponse. Clémentine Portier-Cadillac sur le fil. Elle remporte le quiz. C'est le vrai nom de Vincent Cassel.
Ça, c'est une question d'histoire.
On doit. Mais
il est le fils de Jean-Pierre Cassel.
Ne me demandez pas pourquoi, parce que moi aussi, là, en tant que présentateur du quiz, j'aurais aimé avoir plus d'explications pour pouvoir expliquer la généalogie.
Il est le fils de Jean-Pierre Cassel. Donc
effectivement, donc logiquement, Cassel semble être son vrai nom. Écoutez, moi, on m'a mis que son vrai nom, c'est Vincent Crochon. Donc, je vous invite à faire des vérifications.
C'est-à-dire que toute la dynastie a changé de nom.
C'était Cruchot ou Crochon, je ne sais pas. Le vrai nom de Vincent Cassel, Vincent Crochon. On doit le spéculum à Joseph Récamier et le métier à tisser à la chaîne à Jacques de Vaucanson.
Mais Vaucanson, mais oui, Vaucanson, la machine de Vaucanson.
Pas Jacquard, vous confondez avec les visiteurs, mais ça, on voit que vous avez d'autres sources historiques.
Non, pas du tout, là. Jacquard a inventé un métier à tisser, excusez-moi.
J'avais gagné le quiz, et maintenant je l'ai perdu.
J'aime bien.
Et vous verrez dans l'histoire, il y a plein de retournements comme ça de dernière minute, c'est terrible.
Bah oui.
Simplement grâce à votre arbitraire. C'est bien de le reconnaître.
Et bien, c'est vrai que c'est de gagner, allez, il y a un dernier moment, coup de table, il a déposé les armes.
Allez, hop, à la guillotine.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Nous sommes deux et ils sont trois, Stéphane. Trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser mais qui avaient un point commun. Aujourd'hui, celui d'avoir vécu heureux et d'avoir eu beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'enfants.
Après Marie-Thérèse d'Autriche, qui en a eu une dizaine, je vais vous raconter l'histoire de Joséphine Baker, qui elle en a adopté toute une tripotée. Quant à vous, Mathieu, vous nous parlerez d'un Hollandais dont on ne sait pas s'il vit heureux, mais qui a eu beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup d'enfants. Il détient même le record.
Oui, quand Ed Hoeben a appris à la suite d'un examen que son sperme était d'une qualité exceptionnelle, il a décidé d'en faire profiter le maximum de femmes. Il est devenu le plus gros donneur de sperme des Pays-Bas, puis d'Europe, puis du monde. Un hobby qui n'est pas de tout repos, qui nécessite beaucoup de concentration lorsqu'on se retrouve seul dans cette petite pièce dédiée à l'hôpital avec son petit récipient. Stéphane a essayé une fois de donner ses gamètes, mais ce fut laborieux.
De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace,
s'écriait-il. On lui avait donné des magazines, Playboy, Penthouse, mais au bout d'une demi-heure, un peu embarrassé, Stéphane est ressorti pour demander « Pardon, mais vous n'avez pas plutôt point de vue ou maison et travaux ?»
Oui, dans la vie, tout est une question de point de vue. Vous avez raison, Mathieu. On présente les chroniqueurs qui vont nous accompagner durant cette deuxième heure, plutôt que d'entendre vos bêtises.
Oui, eux aussi ont répandu leurs gamètes avec générosité aux quatre coins du monde, mais sans jamais en assumer les conséquences en termes de pension alimentaire. David Castel-Lopez, vous êtes notre spécialiste.
Oui, il entend des voix et il nous raconte l'histoire des voix qu'il entend.
Oui, et en particulier celle du jingle de la SNCF.
Qui a composé ces petites notes ?
Qui a composé ces petites notes ? D'où elles viennent ? Depuis quand ? Est-ce qu'elles résonnent dans les gares ? On va voir ça dans quelques minutes.
Pouvez-vous nous le faire ?
Il n'y a même plus besoin d'effets sonores avec lui.
Incroyable.
Il fait tous les effets buccalement. C'est incroyable.
Et votre ami Olivier, je dis votre ami.
Pourquoi
parce
mon
que
ami
vous aimez bien aussi. Les plats en sauce en même temps.
Oui, c'est vrai.
Vous et lui.
On aime bien
et
les plats en sauce.
Aujourd'hui, vous avez décidé de faire light, je comprends, avant les fêtes.
Ouais.
On va parler les sushis japonais.
Bah, c'est un plat qu'on peut difficilement manger quand on a beaucoup d'enfants parce que ça coûte très cher.
Oui, c'est vrai.
Et,
ça.
Et vous allez voir que ça peut même coûter très très cher.
Non, mais c'est vrai, sinon on est empoisonné.
De quoi vous parlez?
Non, ça dépend de des poissons.
Ça dépend du poisson.
Oui, alors le fugu, oui, mais là, il faut avoir une certaine technique.
Stéphane, bon, vous n'avez pas pour vous ce n'avez rien consommé dans cette émission. Vous êtes arrivé ici sobre, vous pouvez l'assurer aux auditeurs.
J'ai pris des sushis.
Oui, des sushis avec quelque chose dedans, visiblement. Alors Stéphane, ça nous est jamais arrivé, on ne s'est jamais regardé en chien de faïence.
Non.
Mais on aurait pu. Qu'est-ce que ça veut dire en chien de faïence?
Eh bien, d'où ça vient? Mais justement, se regarder en chien de faïence, bah, ça n'a pu exister qu'à partir du moment où il y avait de la faïence.
Et des chiens.
Je sens qu'on va apprendre, mais avec gourmandise dans cette deuxième heure, et que le niveau va être vraiment, vraiment très relevé. Tout de suite, Stéphane, découvrons le destin d'une femme qui vécut heureuse, quoique pas toujours, mais qui eut beaucoup, beaucoup d'enfants adoptés, Joséphine Baker.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Plus de 50 ans de carrière et plus de 10 enfants qu'elle a adoptés. Stéphane, vous nous brossez le portrait de la légende du musical, Joséphine Baker.
Oui Mathieu, une meneuse de revue américaine devenue une icône en France dans les années 20. Quand on évoque Joséphine Baker, nous vient cette image d'une belle femme noire et souriante qui danse les reins ornés de cette célèbre ceinture de banane. Mais alors on oublie l'essentiel, toute sa vie, Joséphine Baker lutte contre les inégalités, contre le racisme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage comme informatrice dans la résistance et à 35 ans, lorsqu'elle apprend qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, elle décide en effet d'en adopter. Alors pas un, pas deux, pas trois. Joséphine Baker adoptera 12 orphelins. Vous l'avez compris, la vie de Joséphine Baker est un roman. Un roman à la Dickens qui commence bien mal. Joséphine est née en 1906 dans le Missouri, aux États-Unis. La future star est une enfant de la balle. Sa mère est danseuse et son père musicien dans les Bouches de la ville de Saint Louis. Très tôt, le père abandonne sa famille et Joséphine, qui n'est qu'une enfant, devient femme de ménage pour rapporter quelques sous à la maison. À 12 ans seulement, Joséphine Baker se marie, mais après une terrible dispute avec celui qui partage sa vie, elle lui lance une bouteille sur la tête et le jeune homme décampe sans demander son reste. Elle danse dans des troupes itinérantes, son rêve est de pouvoir un jour se produire à Broadway. Pas simple, voire impossible quand on sait comment, je vous le rappelle, à cette époque, la ségrégation raciale règne aux États-Unis. Considérés comme inférieurs aux Blancs, les Noirs n'ont pas le droit d'habiter les mêmes quartiers, de s'inscrire dans les mêmes écoles, ni même d'utiliser les toilettes publiques des Blancs. Quand on lui propose de venir à Paris pour devenir l'étoile montante d'un spectacle appelé la Revue Nègre, le nom à l'époque ne choque personne, Joséphine Baker accepte. Elle n'a que 19 ans, mais la voilà prête à conquérir l'Europe. Un soir d'octobre 1925, Joséphine Baker fait une entrée fracassante sur la scène parisienne du Théâtre des Champs-Élysées. Vêtue d'une simple ceinture de plumes qui seront bientôt remplacées par ses bananes restées célèbres, la jeune femme entame un charleston endiablé et plutôt sexy. C'est du jamais vu en France. Les spectateurs, d'abord choqués, sont finalement emballés par le spectacle de cette belle danseuse à moitié nue. « Paris aime beaucoup mon derrière », aurait-elle dit. On le trouve à la fois confortable et artistique. Ce qui m'a le plus flatté, c'est d'entendre dire qu'il est espiègle et spirituel. Depuis que je sais ça, j'ose à peine m'asseoir dessus.
Elle avait beaucoup d'esprit.
Beaucoup. Le Paris mondain et artistique est à genoux devant Joséphine Baker. On la veut dans toutes les soirées, elle pose pour Picasso, fréquente Hemingway et surtout dépense, enfin, sans compter, car elle est une star en France, certes, mais aussi à l'international. Joséphine Baker se marie avec Jean Lyon, un riche courtier en bourse. Le mariage dure seulement 3 ans, mais il lui permet d'obtenir la nationalité française. La France devient officiellement sa nouvelle patrie, mais surtout son pays de cœur. Elle lui dédie d'ailleurs une chanson, restée célèbre. Joséphine a deux amours, son pays et Paris.
J'ai deux amours.
Lorsque la guerre éclate, Joséphine Baker est prête à servir son pays. Son travail lui permet de voyager, de collecter des informations sur les Allemands, sans attirer l'attention. En juin 1941, Joséphine Becker est installée à Casablanca quand elle doit être transportée d'urgence à l'hôpital où, selon certains témoignages, elle accouche d'un enfant mort-né. Cela se passe mal pour la jeune femme qui subit sans doute une hystérectomie, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Joséphine Becker ne pourra jamais avoir d'enfant. Elle est accablée de douleur en apprenant la nouvelle, mais prend une grande décision. Puisqu'il lui est impossible de donner la vie, elle va donc adopter. Après la Seconde Guerre mondiale, avec son cinquième mari, Jo Bouillon, un chef d'orchestre, Joséphine Becker transforme son château des Milandes en Dordogne, et qu'elle a acquis quelque temps auparavant, en terre d'accueil pour des enfants dans le besoin et en manque d'amour. Entre 1955 et 1965, en 10 ans, le couple adopte 12 enfants de cultures, de nationalités et de religions différentes. Ils viennent du Japon, de Colombie, de Finlande, de France, d'Algérie, de Côte d'Ivoire, du Venezuela ou encore du Maroc. Avec sa tribu arc-en-ciel, c'est ainsi que Joséphine Becker surnomme sa famille, l'artiste veut prouver que, je la cite, « toutes les races peuvent vivre ensemble dans une harmonie parfaite ». Nombre des enfants que Joséphine adopte rentrent avec elle de ses tournées à travers tous les pays du monde. Jari, c'est celui qui lui a fait coucou en Finlande. En Côte d'Ivoire, il y avait un bébé sur le bord de la route. Son père, qui n'était pas sûr que ce soit son fils, faisait passer un troupeau de vaches à côté de lui pour voir un signe. À celui-là, Joséphine Becker a dit « Si tu n'es pas sûr, moi je le suis ». Et Kofi est arrivé. Dès son arrivée, chaque enfant est pris en charge par une nourrice, habillée avec soin, entourée d'amour. Au château des Milandes, à Noël en particulier, l'ambiance est à la magie. Le grand château devient trop petit pour accueillir tous les amis et les cadeaux s'accumulent au pied de l'immense sapin. Hélas, la générosité de Joséphine Becker finit par la perdre. Séparée de Jo Bouillon, elle engloutit toute sa fortune dans le domaine des Milandes dont elle doit se séparer. Avec toutes ses bouches à nourrir, Joséphine Becker est ruinée. Heureusement, elle peut compter sur l'aide de célèbres amis et admirateurs. Grâce de Monaco accueille sa tribu arc-en-ciel dans une villa monégasque et l'acteur Jean-Claude Brialy ouvre à Joséphine Becker les portes de son théâtre. Et puis surtout, grâce à un nouveau spectacle sobrement intitulé Joséphine, l'artiste revient en grâce. En 1975, le tout Paris se presse pour l'admirer à nouveau sur scène. Joséphine Becker a désormais 69 ans. Elle a déjà été victime de plusieurs accidents cardiaques, mais lorsqu'elle foule les planches, elle retrouve sa jeunesse. Ce mercredi soir, comme les autres soirs à Bobino, couronnée de plumes d'oiseaux de paradis, elle danse sauvagement le Charleston. Elle enfourche une Harley Davidson sur scène. À l'entracte, elle prévient, alors que tous la supplient de se reposer, « Après le spectacle, emmenez-moi chez Michou. Il paraît qu'il y a un travesti très drôle qui m'imite. Je veux le voir. » Elle s'y rend et soupe juste en face à la baratte d'un plat de spaghetti bolognaise arrosé de bière bien fraîche. Hélas, au lendemain de ce qui restera comme sa 14e et dernière représentation, une hémorragie cérébrale terrasse Joséphine Becker à son domicile. Elle tombe dans le coma et décède 3 jours plus tard. La France y organise des obsèques nationales. 12 000 personnes sont là, à la Madeleine, les drapeaux, les ministres, la princesse Grâce de Monaco, Sophia Loren, Jo Bouillon, devenu restaurateur à Buenos Aires, et 2 de ses 12 enfants adoptifs, cette tribu arc-en-ciel qui fut son rêve, l'attendent une dernière fois. Dans la foule aussi, une vieille dame noire pleure. Elle s'appelle Marguerite Wallace. C'est la sœur de Joséphine Becker qui aura ses derniers mots. Je n'aurais jamais cru qu'une femme de couleur puisse être enterrée à Paris comme une reine. Preuve que l'amour que Joséphine Becker leur a donné, son pays et Paris le lui ont bien rendu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors Stéphane, pour continuer à parler de Joséphine Becker et sa tribu arc-en-ciel, nous avons la chance d'être avec un des membres de cette tribu. Bonjour Jean-Claude Bouillon-Becker.
Bonjour. Vous êtes... Bonjour à vous deux.
Vous êtes un des fils adoptifs de Joséphine Becker. Vous êtes le combientième ?
Alors, je suis le cinquième.
Cinquième,
alors. Je suis le français et le parisien, parce qu'il en fallait un.
Il en fallait un. Le parisien de la bande, c'est vous. On en parle dans un instant avec vous sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue, ils vécurent heureux et eurent beaucoup, beaucoup d'enfants. C'est le thème de notre émission cet après-midi. Nous parlons de Joséphine Becker avec l'un de ses 12 enfants adoptifs dans la famille Becker. Je demande le cinquième, Jean-Claude Bouillon-Becker.
Oui, Jean-Claude Bouillon-Becker, vous poursuivez le thème de l'émission. Ils eurent beaucoup d'enfants, ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Est-ce que Joséphine Becker était vraiment heureuse? À quel moment sur scène ou avec ses enfants ? Ou les deux, peut-être ?
Ah, je pourrais dire les deux, évidemment, indissociablement. Son encre terrestre, son amarre, si vous voulez, c'était nous, ses enfants, je pense, arrachés aux guerres et aux orphelinats. Et les voir s'élever comme ça, des enfants venus du monde entier, les voir s'élever dans une sorte de tolérance raciale, on ne peut pas imaginer le bonheur qu'elle a dû éprouver à ce moment-là. Et son bonheur intime, son bonheur de sa raison d'être artiste, eh bien, évidemment, c'était la scène, donc ses noces avec le public du monde entier.
Stéphane a présenté cette tribu arc-en-ciel, c'est vraiment idyllique, c'est-à-dire que ça fait rêver quand on écoute cette famille comme ça d'enfants adoptés. Est-ce que c'était vraiment rieur comme ça au quotidien, ou est-ce qu'il y a eu des moments difficiles ? On sait que parfois, dans les enfants adoptés, un jour, ils se rebellent un peu contre leurs parents adoptifs. C'est des choses que vous avez vécues dans la tribu arc-en-ciel ou non ?
Non, si vous voulez, le terreau, c'est-à-dire l'intime, c'était Joséphine avait bien pris soin d'adopter des enfants tout petits. Donc, après un minutieux travail d'observation, parce qu'elle était très intuitive et observatrice, et sa profession de foi, que j'ai entendue mille fois, c'était ça. C'est en voyant les soi-disant adultes se comporter dans toute cette intolérance que j'ai décidé d'adopter les enfants, mais tout petits. Mais évidemment, c'était une expérience.
Oui. Mais ce qu'elle voulait, c'était...
Il fallait réussir. Oui.
Mais Jean-Claude, ce qu'elle voulait, c'est vous épargner les souffrances qu'elle avait connues quand elle était petite fille. C'est-à-dire une éducation, une enfance malheureuse, au fond. C'était véritablement son ambition.
Je pense qu'elle avait une sorte d'ambition secrète de femme justement non instruite, c'est-à-dire non instruite, non intellectuelle, mais restée comme une femme, une grande voix féminine quand même, d'une certaine façon, en montant par cet acte extraordinairement avant-gardiste, justement de la tolérance raciale, qui était considérée comme une utopie, mais qui n'en était pas une. Parce qu'on est toujours utopique, vous savez, avant que les choses soient prouvées. Et puis ensuite, lorsque la réalité s'impose, à ce moment-là, on considère tout l'instinct, toute la justesse, si vous voulez, de cette expérience. Voilà.
Vous, Jean-Claude, vous avez été adopté avant votre deuxième anniversaire. Vous aviez 20 ans quand Joséphine Baker décède. À quel moment de votre jeunesse vous prenez conscience de l'ampleur de ce qu'elle représente, de la star internationale qu'elle est, et en quoi ça vous affecte ou ça vous fait plaisir ou je ne sais pas?
Justement, j'ai écrit ce livre, vous savez, j'ai écrit tardivement.
Oui, ce livre que vous lui avez consacré, qui s'intitule « Un château sur la Lune ».
J'avoue, franchement, j'ai entrepris ce bouquin à l'âge de pas avant 35-40 ans. Jusqu'à cet âge-là, je considérais Joséphine, si tu veux, par rapport à ma mère. Moi, je dis alternativement Joséphine ou ma mère, c'est la même chose pour moi. Je veux dire, mais cette Joséphine, donc, du public, ce personnage populaire, je la considérais justement comme un personnage populaire, malgré tout ce que j'avais vécu avec elle, mais populaire dans le sens où elle appartenait à tout le monde, c'est ce que je veux dire. Voilà, elle était dans la conscience collective française maintenant. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais cette femme, quand même, c'est un destin assez extraordinaire. Je me suis interrogé, je me suis dit, si tu ne l'avais pas connue, essaie de réfléchir une seconde, imagine que tu ne l'aies pas connue, que tu la découvres maintenant dans un magazine ou un livre d'histoire. Quel aurait été ton goût vis-à-vis de cette femme ? Est-ce que tu aurais voulu en savoir plus ? Voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire ce livre.
Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup Jean-Claude Bouillon-Becker pour tout savoir sur Joséphine Baker. Je rappelle le titre du livre que vous lui avez consacré, Un château sur la Lune, aux éditions Hors Collection.
Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, nous rendons hommage à ces personnages de l'histoire qui vécurent heureux et surtout, eurent beaucoup d'enfants. Après Marie-Thérèse d'Autriche et Joséphine Baker, vous nous parlez, Mathieu, d'un personnage plus récent mais encore plus prolifique en termes de progéniture. Il en serait à plus de 120 enfants, c'est ça ?
Oui, Stéphane, laissez-moi vous présenter celui que le Guinness Book des records surnomme le robinet magique hollandais. 120 gosses. Imaginez David qui a déjà peur d'en faire un et Olivier qui en a fait deux, mais dans le deuxième est consécutif à un problème de contrôle qualité chez Durex.
Oh,
sont
non.
Sur le cul. Mais, disait l'autre jour. Comment un homme qui n'est ni fondamentaliste chrétien, ni intolérant au latex, ni Patrick Bruel a-t-il pu avoir 120 enfants biologiques ? Eh bien, tout simplement en embrassant la belle carrière de donneur de sperme avec l'objectif de devenir le meilleur. Stéphane, Olivier, David, je vous présente Ed ou Ben, le Michael Jordan du sperme, le Neymar de la fécondation in vitro. Et pas que in vitro, mon cochon, parce qu'on le verra, il est malin, le Eddy. En tout cas, il fait clairement partie de ces types que le le monsieur du CDI avait mal conseillé, puisqu'à la sortie du lycée, Ed a envisagé l'idée de devenir moine. Une vocation magnifique, où d'ailleurs on ne se tire pas moins sur la nouille, mais disons il y a beaucoup plus de gâchis. Et Ed, gâché, il aime pas ça. Alors un jour, alors qu'il est encore puceau d'ailleurs, il se dit, comme dans les chroniques de David, tiens, et si je donnais mon sperme ? Déjà âgé de 34 ans, comme quoi il n'y a pas d'âge pour être puceau, ce sympathique guide touristique polyglotte, qui physiquement ressemble, si vous voulez, à un mash-up raté de François Hollande, Pascal Bataille et Angela Merkel, devient donc un robinet de générosité, un philanthrope séminal. La belle idée aurait bourgeonné dans sa tête lorsque Ed a commencé, je le cite, à côtoyer plusieurs couples stériles. Alors, on peut déjà s'arrêter là-dessus, c'est un peu chelou. On commence éventuellement à côtoyer régulièrement des nouveaux collègues, le monde de la nuit, mais plusieurs couples stériles, c'est étrange comme fréquentation. Mais peu importe la genèse du projet, ce qui compte, c'est sa concrétisation. Telle Bernadette Soubirous, qui aurait vu Rocco Siffredi à la place de la Vierge, Ed a été frappé d'une révélation. Son sperme vigoureux, il donnera. Et il fait ça, vous allez voir, très sérieusement, toujours selon le même rituel. Entrée dans la petite cabine de l'hôpital qui sent l'eau de Javel, navigation privée sur Pornhub, d'abord la main droite, puis la main gauche, toujours, il se prépare mentalement, checklist.
Les couilles et le zizou, voilà.
Quand elle le sent prêt, l'infirmière qui supervise l'opération déclare « Monsieur Houben, 5, 4, 3, 2, 1... »
Envoyez la sauce.
Non, vous avez osé. Vous avez osé, Mathieu.
C'est fastidieux, peu clinique. Mais Ed se sent investi d'une mission. Pourquoi ? Eh bien, messieurs, parce qu'à l'issue d'une batterie d'examens, la clinique de Maastricht, ce bon vieux Ed, qui n'a jamais dû avoir plus de 12 sur 20 au lycée, trouve enfin une matière dans laquelle il sort du lot, le sperme. Il le raconte avec une bouleversante fierté, comme un normalien de la Pignole, si vous voulez, ayant fini majeur de sa promo avec les félicitations du jury. Je le cite, « À ces examens très poussés, 85% des hommes échouent. Ma semence fait partie des plus performantes de Hollande. » Alors, évidemment, on en sourit, mais c'est vrai que quand on donne son sperme, Stéphane, il vaut mieux qu'il soit de qualité.
Il faut que ce soit bien frais,
oui,
non, parce que parfois,
oui,
il est trop liquide.
Oui, non mais Stéphane, on a l'idée. Bref, ses examens réussis haut la main et son diplôme de maître artisan spermier en poche, Ed se lance tête baissée et en l'air dans le don de gamètes. Quand on m'a dit que j'avais dépassé mon quota, c'est-à-dire suffisamment pour engendrer 25 enfants, j'ai été très déçu. C'est là que j'ai décidé de devenir donneur privé. En effet, au même moment, en 2004, les Pays-Bas abandonnent le principe de l'anonymat du don de gamètes, ce qui entraîne, vous l'imaginez, une chute drastique des dons. Effectivement, la perspective de voir un jour frapper à ta porte une vingtaine d'ados boutonneux, qui plus est hollandais, qui te disent « Salut pote, t'aurais pas 50 euros pour que je m'achète de la beuh à Amsterdam ?» Ça peut décourager les bourses les plus généreuses. En passant dans le privé, Ed peut continuer son œuvre philanthropique. Il sème à tous les vents, mais pas n'importe comment. Anne, la Finlandaise, Émilie 1, Émilie 2, Ethan d'Israël, Florian du Luxembourg, aide à classer toute sa progéniture dans un tableau Excel par ordre alphabétique. Je suis allé sur son site officiel, par souci de professionnalisme et afin de double-checker mes sources. C'est, comment dire, particulier. Une page d'accueil aux allures d'une brochure de Médecins sans frontières où on le voit accroupi devant un enfant sur les genoux de sa maman. Puis plusieurs dizaines de photos de lui classées par année qui font penser au tableau de Liège des commissariats de police. Vous savez. On peut même y lire tous ses résultats d'analyse. Je connais mieux l'anatomie de cet homme que la mienne. Très vite, Ed devient particulièrement sélectif. En quelques années, face à la demande, il s'est transformé en un videur de boîtes de nuit tropézienne. Notre Jean-Roch du sperme s'explique. Il faut d'abord que les futurs parents me convainquent que je me sentirais bien si j'étais leur enfant. Comme dirait mon psy, oh le joli transfert. Il va loin dans la sélection et c'est là qu'on commence à perdre Ed. Il n'est plus donateur mais recruteur. Il devient le véritable directeur de casting de sa propre semence. Une fois j'ai refusé une femme, sur la photo elle était pas mal, mais derrière elle dans la pièce, c'était le bordel. Oh la vache, orchestra hit. À noter également, mesdames, si vous êtes intéressés, pas de femme droguée ni alcoolique, ni même fumeuse. Bon, ça passe encore mais je continue. Pas de femme inculte, ni trop grosse. Continuons. J'ai de longs échanges par courriel et par téléphone avant d'accepter. Je ne veux pas que ma progéniture soit élevée par des gens psychologiquement instables. Bien sûr, Ed. Comme des gens qui renonceraient à avoir une vie sentimentale normale pour donner leur sperme jusqu'à 10 fois par semaine, je comprends. Ou encore comme quelqu'un qui s'affranchirait des règles classiques du don de sperme pour le rendre plus fun en invitant les postulantes directement chez lui et leur mettre un petit CD de Barry White. Et oui, je vous l'avais promis, mes petits cochons. Dans le game des donneurs de sperme, Eddie a un truc en plus. L'insémination sans âme avec pipette graduée et un bol et une seringue, très peu pour lui. Comme il l'explique volontiers, je cite « Hey !» Le don de sperme est bénévole. Il faut bien que j'ai un peu de plaisir dans l'histoire. Mais bien sûr, mon Eddy. D'autant que, toujours d'après lui, l'idée d'une insémination plus naturelle ne vient pas de lui. Figurez-vous, Stéphane, que c'est un couple d'Argentins qui un jour lui a soufflé la belle idée. Faut dire que c'est des Argentins. Ils ont sang chaud. Voyant Eddy attraper la pipette et la seringue, le mari aurait protesté. Nous voulons qu'au moment de la conception de notre enfant, il y ait un poquito de romantisme. Traduction ? Eh oui Stéphane, l'Argentin a tout bonnement réclamé que Eddie se tape sa femme. Que fait le mari pendant que Eddie s'occupe de maman ? Eh bien, je l'ai laissé dans le salon et je lui ai expliqué comment marchait la télécommande, déclarait Eddie avec un clin d'œil potache. Il était content parce que j'avais Canal+. Créer une nouvelle vie, c'est aussi une fête, explique aujourd'hui le plus épanoui des donneurs de sperme. On rappelle qu'il est resté puceau jusqu'à 34 ans. Alors fatalement, depuis, sa vie, c'est à la recherche du temps perdu, la madeleine en moins, le biscuit en plus. Alors attention, lombaire solide exigé, Eddie couche désormais avec une quinzaine de femmes par mois. Spirituel, il conclut toujours par une petite blague lorsqu'il raccompagne ses demoiselles.
Vous voulez pas que je vous baise la main non plus.
Erouven, ou l'histoire du mec qui avait tout compris.
Putain. Merci Mathieu. C'est 99%.
Là, vous êtes fasciné, vous dites j'ai raté ma carrière.
Non, c'est pas ça, c'est. Parce que vous avez fait le portrait de ce monsieur.
Oui.
Physiquement, ça n'a pas l'air d'être ça. Non, plus.
Effectivement, je vous renvoie aux photos. Après, tous les goûts sont dans la nature.
Oui, mais les gens sont prêts à avoir un enfant à tout prix, même s'ils ont la tête de leur père.
Alors que David et moi, on est nettement
mieux. Alors que vous, et que vous êtes bénévole, et vous êtes là. Et 39-21.
Europe 1, historiquement vôtre.
Nous entrons maintenant dans la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre.
Oui, celle où Baudelaire dirait que la lumière du passé éclaire le présent de sa torche salvatrice.
Enfin, on sent que vous n'êtes pas Baudelaire, Mathieu.
Certes non.
Mais le passé peut effectivement nous aider à mieux comprendre ce monde un peu incertain qui nous entoure avec les sushis de Liverpool.
C'est vrai que c'est très logique, prochainement.
C'est l'incertitude du sushi, oui.
L'incertitude du monde qui nous entoure. Ouais. Donc, après l'origine du sushi, nous allons avoir droit à l'origine à de morue. Quoi, mon cher, David Castello-Lopez?
À l'origine du jingle de la SNCF,
ah,
voyez,
oui, que vous faites si bien. Vous en ferez, vous avez plusieurs variantes ou pas?
J'ai plusieurs variantes, je l'ai fait déjà. Je peux le refaire une troisième fois?
Non, gardez-le pour la chronique, attention, suspense. Et puis, il y aura le mot de la fin, évidemment. Stéphane, aujourd'hui, quelle expression allez-vous décrypter pour nous? Et là, Stéphane, je vous rappelle qu'on n'est pas en télé, donc le gag ne fonctionne pas, mais il était bon. Stéphane m'a regardé avec des yeux de merlan frit.
Non, de chien de faïence.
Chien de faïence. Chien de faïence. D'où vient cette expression?
Une belle expression dont je vais essayer de vous donner l'origine.
En n'oubliant pas qu'on est en radio. Oui. Le chien de faïence, ça sera juste après. Ça sera juste après le jingle de la SNCF. Si vous ne comprenez rien, c'est normal, moi non plus.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est un drôle de garçon, mais on a pour lui une énorme affection. C'est David Castello-Lopez. Chaque jour, il repart aux origines pour nous des inventions, des objets qui nous entourent et parfois même des voix.
Tout à fait. Mathieu, Stéphane, Olivier, vous êtes tous suffisamment âgés pour avoir connu l'ancien jingle de la SNCF. Ah. Est-ce que vous vous en souvenez?
L'ancien jingle?
Oui. J'ai parlé à Philippe, le réalisateur, tout à l'heure, et lui, il connaissait.
On va l'entendre, ça va être
on va l'écouter. Donc, avant, le jingle de la SNCF, c'était ça.
Ah oui,
bah oui, bien sûr.
C'est super vieux, oui.
Ah, j'aimais bien.
Bah, oui, c'était
petit carillon.
On appelait ça le domisol. Est-ce que vous savez pourquoi on appelait ça le domisol?
C'est les notes.
Voilà, c'est ça.
Bravo. Tout ce qui est dans votre CV, vous l'avez gagné, vraiment, à la sueur de votre front.
Alors, bien sûr, maintenant, ce n'est plus le domisol, maintenant, c'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé entre le demi-sol et celui-ci?
On n'a plus le temps à perdre.
Et bien, entre les deux, il y a un monsieur qui s'appelle Michael Boumendil, que je suis allé voir et auquel j'ai demandé, comme à chaque fois, de dire « Je m'appelle Michael Boumendil et c'est moi qui ai créé le jingle de la SNCF. »
Bonjour, je m'appelle Michael Boumendil et j'ai créé avec mon équipe le jingle de la SNCF.
Voilà.
Avec son équipe, il s'est mis à plusieurs.
Oui, il a tenu à dire avec mon équipe quand même, parce que je pense qu'effectivement, ça a dû être un travail collectif. Michael, il est PDG d'une entreprise qui s'appelle Sixième Son, qui crée des designs sonores. Et justement, en 2004, la SNCF se disait que le domisol, c'était un petit peu chiant. Et donc, ce serait bien de changer. Et ils ont fait appel à Michael pour qu'il propose des trucs. Et donc, Michael, il s'est mis au travail avec son équipe. Ils ont proposé plein de choses différentes. Et à un moment, ils ont fait une mélodie. Alors, Michael, il n'avait pas d'enregistrement de cette première mélodie, mais il me l'a décrite. Et donc, j'ai pu la refaire moi-même.
Hein. C'est encore mieux.
On écoute.
Bon, pam, pardon.
Voilà. Et là, ils ont écouté ça, ils ont dit, c'est pas mal, mais c'est.
Ça ressemble.
Et essaye en mineur. Et donc.
Bon, pam, pardon.
Et voilà. Et là, c'est bingo.
Bingo.
Bingo. C'est le jingle de la SNCF, ça. Et donc, tout le monde était d'accord que c'est super. Ils l'ont enregistré. Et le jingle de la SNCF qu'on connaît aujourd'hui, il est diffusé pour la première fois le 15 mars 2005 au matin. Michael, il raconte qu'il s'est caché dans la gare de Lyon pour voir la réaction des gens. Et les gens, ils comprenaient pas du tout que c'était le nouveau jingle de la SNCF. Ils pensaient que c'était un petit morceau d'une chanson, vous voyez.
Ah bon?
Et je dois dire, moi, que je faisais partie de ces gens-là. Je me suis dit que c'était le début du refrain de En apesanteur de Calogero.
je vais vous les... je vous sens sceptique. Je vais vous les faire écouter.
Il y en a un qui bouffe des sushis. L'autre qui écoute le jingle de la SNCF. Mais sortez-moi là. Je ne suis pas une célébrité, mais sortez-moi de là.
Je vais vous les faire écouter l'un après l'autre. On va voir ce que, si vous n'êtes pas d'accord avec moi.
Ah, là, c'est les mêmes notes.
Mais c'est très voisin, c'est pas exactement la même chose, mais c'est très voisin. Et ça, je l'ai dit à Michael Boumendil qui m'a dit, figurez-vous que Bob Sinclair m'a dit la même chose, vous voyez.
Ah, vous avez l'oreille de Bob Sinclair.
Mais apparemment, c'est juste une invention simultanée, sans rapport, personne n'a copié sur personne. Donc voilà, alors on entend une voix de fille dans le jingle qui chante, hein, et je suis sûr que vous vous demandez qui c'est cette fille qui chante. Hein.
Là, c'est un ordinateur.
Eh bien non, c'est pas une fille, c'est deux filles. Deux filles, la voix de deux filles combinées. Alors, qui sont ces filles? Eh ben, on sait pas. Pourquoi? Parce qu'elles veulent pas qu'on sache. Elles ont signé un accord, dire qu'on ne révèle pas leur nom.
Donc, si ça se trouve, c'est Véronique Sanson et Céline Dion, quoi.
Oui, ou Nathalie.
Il a coûté cher le jingle de SNCF.
Ou Nathalie Kosciusko-Morizet, mais votre temps, vous voyez, on sait vraiment pas, quoi. Donc, jusqu'à nouvel an, c'est une énigme. En attendant, le jingle de la SNCF, il est joué entre 100 et 150 000 fois par jour. Ça fait 2,3 fois par seconde.
Attends, il parle des droits d'auteur à chaque fois, là, ton Michael?
Non. Question qu'on lui pose beaucoup.
Il a payé
une fois pour toutes, un forfait. Voilà,
exactement. Mais en fait, c'est pas un début de chanson, puisqu'après, il y a quelqu'un qui parle.
C'est contingent. C'est-à-dire que là, le jingle, il est toujours là, et ensuite, il y a quelqu'un qui parle. Voilà. Oui, effectivement. Donc, non, mais c'est pas un début de chanson. Oui, lui, c'était un
Non, mais vous dites, au début, j'ai cru que c'était un début de chanson. Trois secondes, et après, il y a une voix qui dit, le train, en partant.
Normalement, très rapidement, ce que je veux dire, Stéphane, c'est que très rapidement, quand on est quelqu'un logique, on comprend que c'est un jingle.
Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu être un morceau de chanson qu'ils avaient mis là, suivi d'une voix.
Ça aurait pu être ça.
Dernière chose, vous le savez peut-être, il y a beaucoup de gens qui se sont servis du jingle de la SNCF pour faire des vraies chansons. Il y a notamment un groupe de tango qui l'a repris.
C'est vous le
tango. Un groupe d'électro aussi.
Ah oui,
c'est plus logique.
Ah là, c'est bon.
Et surtout, ça a été repris par David Gilmour, le guitariste de Pink Floyd, dans une chanson entière qui s'appelle Rattle That Rock.
Mais pourquoi il a fait ça? Il a été bloqué longtemps dans un TGV.
Il raconte comme une fois, il était dans une gare, il a fait ah là là, enfin c'est putain, ça c'est cool, j'adore ce truc. Il a appelé Michael Boumendil, il a dit vas-y, je peux prendre ton son.
Génial.
Et je vais te faire une chanson. Et finalement, ils ont eu un procès parce que ils sont pas entendus et que Michael Boumendil a demandé 450 000 euros à David Gilmour, qui a dit non. Écoute,
il était un petit peu gourmand là, 450 000.
Il était un petit peu gourmand. Et donc vous voyez toutes ces versions. Moi, vous me connaissez, ça m'a donné envie de composer ma propre version du jingle de la SNCF.
Ah, oui, David.
Alors là, voici, ça dure quelques secondes. C'est pas terrible peut-être, mais au pire, ça dure que quelques secondes, donc on va pas s'ennuyer. La basse, la batterie, la guitare.
Mais alors là,
c'est super bien.
C'est excellent, c'est bien mieux que le mec. En fait, j'ai compris, on se demandait pourquoi cette chronique. Le mec, en fait, il est tellement bon dans tous les domaines que là, il envoie un petit message discretos à la SNCF, dire hey, les gars, écoutez, Michael, je sais pas combien vous l'avez payé, mais moi, en deux minutes pour une chronique,
bien, hein,
je vous sors un truc comme ça.
Oui, ça nous plaît bien. Merci, David, vraiment.
Même si vous êtes un peu un vantard, je dois dire qu'il y a du talent derrière ça.
Écoutez, tout ça m'a épuisé, maintenant j'ai faim.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Olivier Pouls, on me hurle dans les oreilles qu'on a débordé énormément sur tout le reste de l'émission. Donc rapidement, droit au but, les sushis aujourd'hui, l'histoire du sushi.
Du riz, des poissons.
Merci Olivier.
Non mais il vous aura pas échappé quand même que depuis une vingtaine d'années, partout en France,
c'est
particulièrement dans les grandes villes, il n'y a pas une rue dans laquelle il n'y a pas au moins un vendeur de sushis. C'est un produit hyper à la mode. Mais il faut bien reconnaître que entre ce qu'on nous vend ici en France, dans ces chaînes, comme étant des sushis, et ce qu'est le véritable art du sushi japonais, il y a évidemment une énorme distance. C'est un petit peu comme si on considérait que le sandwich de la SNCF, c'est de la grande gastronomie. C'est un produit qui est très adapté de ce que doit être le vrai sushi. Alors, le sushi est évidemment un produit japonais, encore que historiens pensent que au départ, l'idée de conserver du poisson dans du riz, parce que c'était ça l'idée au tout départ,
vous
c'était
voulez dire
chinois.
Que le maki est antérieur au sushi, puisque dans le maki, le poisson est à l'intérieur entouré
Exactement.
De riz.
Et de l'avocat, il y a aussi de l'avocat.
Ça, c'est Californie, beaucoup plus tard. C'est la Californie.
Une connaissance très partielle du sushi.
Mais l'utilisation. C'est un scoop énorme. Vous venez de dire sur l'antenne de repas que le sushi était potentiellement chinois.
Oui, parce que l'idée de faire fermenter du riz et de mettre du poisson dedans pour le conserver est chinois à l'origine. Il devient japonais évidemment assez rapidement, puisqu'il y a, une grande porosité entre ces régions. Et au 7e siècle...
Oui, ça n'a pas toujours plu.
Non, ils ne sont pas toujours bien entendus. Mais quand même, ça arrivait dès le 7e siècle, les Japonais, pour ne pas gâcher, finalement, vont se mettre à manger aussi ce riz, à ne pas le jeter. Mais le vrai sushi tel qu'on le connaît, il est né au 19e siècle, et on le doit à un chef qui s'appelle Anaya Yohei, qui était un chef installé dans ce qui est l'actuelle baie de Tokyo, à Edo, et qui a l'idée, finalement, d'utiliser des petites boulettes de riz fermenté, de riz dans lequel on a ajouté du vinaigre, avec du poisson, un poisson ultra frais, et là on y revient, parce que la baie de Tokyo regorge de poisson, et pour ne justement pas avoir à le garder, parce qu'on n'a pas les moyens de conservation actuels, il faut le manger hyper frais. Et donc il crée ces petites boulettes, qui sont d'abord vendues dans la rue, dans des petites, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des food trucks, hein, des petits éléments ambulants, et ensuite il va ouvrir ses premiers restaurants. Et c'est vraiment ça, ce qu'on peut appeler l'idée du sushi moderne. Alors, quand je vous parlais tout à l'heure du sushi tel qu'on le fait chez nous, on est très loin de cette culture, parce que le sushi, c'est un art absolu. Il faut 10 ans aujourd'hui
pour faire un maître
sushi. Ça commence par plusieurs années d'observation où il est, le type
c'est
est les mains
qu'ils ont
croisières.
Dans un restaurant.
Ben, ils ont commencé très jeunes, alors. Mais il faut savoir que en France, c'est beaucoup les Chinois qui font les sushis. Il y a très peu d'authentiques maîtres sushis japonais.
On revient aux origines, finalement.
Ben, quelque part. Et pendant les premières années, le maître sushi, il va rester les mains croisées derrière le dos, uniquement à observer. Alors, on lui donne les mauvaises tâches, il peut un peu faire le ménage, etc. Puis, petit à petit, on va l'incorporer. Il va pouvoir toucher le riz, commencer à cuire le riz. Après, vient la découpe du poisson, parce que ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus subtil et de plus compliqué. Poisson qui doit être ikejime. Donc, c'est-à-dire tuer d'une certaine manière, de manière à ce qu'il n'y ait aucune impureté dans la chair du poisson. C'est une technique qui peut paraître un petit peu barbare, qui consiste à introduire une petite lame...
Castello se bouge les oreilles.
Une petite tige en fer directement dans la colonne vertébrale du poisson. Oh. Il paraît qu'il ne souffre pas du tout.
Il y a beaucoup de témoignages de poissons qui disent « c'est bon, je n'ai pas souffert, vous pouvez faire ça,
ça permet
nickel.
De le tuer instantanément, et puis ça permet surtout, ensuite, saigner... Hein. Et la chair va être totalement immaculée. Et donc, là, vous avez des poissons extraordinairement rares, chers, précieux au Japon. Les thons les plus chers du monde sont vendus au Japon pour finir en sushi ou en sashimi. Et puis, on parlait du fugu, évidemment, l'incroyable poisson. Alors, c'est pas un poisson, c'est une famille de poissons qui a cette particularité de contenir dans son intestin et dans son foie une substance
mortelle,
qui est mortelle pour l'homme, qui paralyse nos muscles et nos nerfs et qui vont nous tuer en l'espace de quelques minutes. Mmh. Et si au moment de la découpe, on vient à percer...
Si c'est le stagiaire,
poche,
par exemple, qui a découpé,
exactement,
et pas le chef...
et que le poison se répand dans le poisson, eh ben vous êtes cuit, vous êtes foutu. Mmh. Chaque année, il y a des morts au fugu.
Mais le jeu en vaut la chandelle, c'est vraiment très bon.
vous donnez la recette des sushis, c'est presque une insulte à tous ces maîtres sushis qui mettent 10 ans à arriver à les faire.
Comme Stéphane et moi, vous commandez chez Fujiyaki, c'est à côté
de
chez nous, c'est très bon.
Un jour, si on le peut, les manger faits par des maîtres, parce que c'est une question de texture, c'est une question de température.
Il y en a quelques-uns.
Il faut bien reconnaître que ça coûte très cher, mais
et que ça n'a rien à voir. Il faut dire qu'au Japon, si vous allez au Japon, les sushis, vous les mangez pas dans tous les restos. Ce que vous mangez au Japon, c'est des ramen, ça. Les sushis, c'est la haute gastronomie. Vous les mangez une fois par an. C'est vraiment
Et les restaurants sushis sont les restaurants les plus chers du Japon.
C'est passionnant.
Oui, merci beaucoup, Olivier. On retrouve cette chronique sur le site europe1.fr. Cette chronique m'a en tout cas mis l'eau à la bouche.
Tiens, l'eau à la bouche.
Oui.
Bah voilà une expression.
Non. Concentrez-vous sur votre mot de la fin. Aujourd'hui. Non. Se regarder en chien de faïence, c'est ça l'expression.
Ah oui, c'est vrai. Je vous raconte ça dans un instant.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Plus je le fréquente, plus je réalise, au détour de confidences hors antenne, que sa culture est phénoménale.
J'avais bien aimé Château-Vallon.
Peut-être. Encore plus juste que dans le son qu'on a entendu. Chaque après-midi vers 6h-10, il nous en fait profiter avec sa rubrique Le fin mot de l'histoire. Stéphane, aujourd'hui, quelle expression allez-vous décortiquer ?
Se regarder en chien de faïence, Mathieu. Ça ne nous concerne pas. J'ai essayé tout à l'heure, mais vous n'avez pas compris. Car dès le début de notre collaboration, vous m'avez regardé avec un regard mi-admiratif, mi-exalté, de vous rendre compte que oui, vous travaillez avec mes côtés en toute humilité, ça, je peux le comprendre.
Mais bon. Tout à fait, Stéphane. J'espérais que ça ne se voit pas trop, mais vous lisez en moi comme dans un livre ouvert. Bref, se regarder en chien de faïence, bienveillance, c'est se regarder avec hostilité.
Oui, absolument, Mathieu. Le grand Robert parle, et c'est joli, de se considérer avec méfiance. La faïence est une céramique composée d'étain et d'argile qui recouvre les poteries. Cette technique vient d'Italie, plus précisément de la ville de Faenza, dans le nord-est du pays. Faenza qui donnera... Logiquement, le nom faïence. C'est au XVIe siècle que la mode de la faïence est lancée. Et c'est une centaine d'années plus tard que va naître l'expression « se regarder en chien de faïence ». À cette époque, on se chauffe au bois. Et il était d'usage de décorer les cheminées de petites babioles, notamment de statues de chiens de faïence disposées face à face, qui de fait passaient leur temps à se regarder sans bouger avec un air de défi. L'expression était née. Notez que l'autre formule, se regarder dans le blanc des yeux, peut autant signifier se toiser avec défi que s'admirer amoureusement. Dans les pays anglo-saxons, on dit « to look daggers at each other », se regarder en se lançant des poignards. Au Brésil, on préfère utiliser la formule « fusillar camouche au yush ».
Fusiller du regard,
oui. Fusiller avec les yeux, quoi, oui, du regard, ça. Absolument. On utilise aussi cette expression en France, notamment quand on tombe sur des femmes aux yeux revolvers ayant le regard qui tue et qui tire les premières.
On embrasse Marc Lavoine. Comme nous, ils vécurent heureux, mais contrairement à nous, Stéphane, ils eurent beaucoup d'enfants.
Bon, en même temps, on en a commencé beaucoup et fini très peu.
Ce que vous racontez, Stéphane.
On
laissera les auditeurs imaginer ce qu'ils veulent. C'est mieux. Lequel de nos personnages du jour vous a le plus ému ou fasciné? Marie-Thérèse d'Autriche, Joséphine Baker ou bien mon Ed Houben, le geyser hollandais? Alors, Stéphane.
Je connais bien Marie-Thérèse d'Autriche.
C'est mieux. De tous les personnages.
Je connais bien Joséphine Baker parce que je viens de finir un secret d'histoire qui sera bientôt diffusé. Ah, ouais. Et quant à Ed Houben, j'avoue que votre geyser hollandais m'inquiète un peu quand même.
Il est flippant. Oui. Demain, Stéphane, si je ne m'abuse, on va parler des champions de l'improvisation.
Vous ne vous abusez pas, Mathieu. Demain, on réunit trois rois de l'impro qui n'auraient jamais pu se croiser. Beethoven, Martin Luther King et son I Have a Dream. Vous savez qu'il a improvisé.
Il a improvisé,
mais c'est resté dans l'histoire. Et vous avez trouvé qui?
Jonathan Cohen, le nouveau roi de l'impro, avec son personnage déjà mythique de Serge le Mytho. Hâte d'être à demain, Stéphane.
Ah oui, moi aussi.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.